Je vais vous expliquer une problématique qui est de plus en plus présente dans le serious game, mais qui l'est également beaucoup dans le jeu vidéo simple, enfin jeu vidéo standard, non pédagogique, qui est donc la réutilisation des scénarios. Très rapidement à propos des auteurs, donc moi-même qui suis le fondateur de la société Succubus Interactive à Nantes, qui développe donc des jeux sérieux et aussi des jeux online et sociaux, Pascal Stassini et Jean-Paul Fournier qui sont donc de l'université de Nice, Sophia Antipolis, Panos Mamidis, qui est de l'université de Thessalonique, en Grèce. Et en fait, tous ces travaux ont été financés par le fonds européen eContent Plus dans le cadre d'un consortium qui s'appelle Meducator. Meducator, c'est 14 partenaires dont le but est de standardiser l'apprentissage médical, que ce soit e-learning ou serious game, et serious game, dans le but de pouvoir réutiliser les acquis dans des contextes différents. Donc, dans ce cadre, le scénario est quelque chose de très important, en tout cas pour les serious games. Les problèmes sont donc triples aujourd'hui. C'est que le premier problème, c'est que la description même d'un scénario. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un scénario? Ça peut être un scénario narratif, ça peut être également un scénario comportemental. En fait, un scénario, c'est que se passe-t-il dans le jeu? Quelle est l'histoire qui est racontée aux joueurs? Ça peut être des choses très très haut niveau, comme d'abord il faut aller parler à telle personne et puis ensuite parler à celle-ci. Ou alors ça peut être je clique à tel endroit et il se passe telle chose. L'idée c'est de vraiment réussir à définir le scénario comme cet ensemble de choses qui se passent, aussi bien comportemental que narratif. Et donc cette description même du scénario fait partie du code source, typiquement des programmes, ce qui rend son accès et sa compréhension très difficile. Un deuxième problème, c'est que la grande diversité des moteurs de jeu complexifie chaque effort de réutilisation. Des moteurs de jeu, typiquement quand on crée un serious game, on va utiliser une grosse brique qu'on appelle le moteur de jeu, une grosse brique logicielle qu'on appelle le moteur de jeu déjà existant. Et puis ensuite, on va le réutiliser à travers différents serious games sur différentes choses totalement différentes. On peut se servir de moteurs de jeu qui viennent de l'industrie du jeu vidéo, ou bien souvent, comme on le voit dans le serious game, des moteurs de jeu développés plus spécifiquement, en tout cas, c'est nous ce qu'on fait à Succubus, des moteurs de jeu développés spécifiquement pour le serious game. On se rend compte que quand on veut travailler avec des personnes qui utilisent différents moteurs, il n'y a pas de dialogue entre les gens possibles et on peut réutiliser rien ou peu. Et donc, voilà, la réutilisation du scénario, cette tâche est même impossible si on n'a pas accès au code source, puisque le scénario fait partie du code source. Il y a plusieurs réponses connues aujourd'hui, hein, c'est pas un problème insolvable, mais vous allez voir que c'est quand même pas si simple que ça. La première réponse est d'utiliser un éditeur. Alors quand on va utiliser un éditeur, il est dédié à un moteur de jeu. C'est-à-dire que c'est un deuxième outil qui va permettre d'éditer le scénario, de le modifier, de le créer. Et puis typiquement, on va avoir d'autres choses comme des ressources graphiques qui sont également éditables. Il doit être créé et développé spécifiquement pour le moteur de jeu. C'est globalement un travail qui demande à peu près autant de temps et d'argent que la création même du moteur de jeu. Et ça doit être prévu dans le moteur de jeu à la base. Deuxième possibilité, c'est un langage de scripting. Alors, ça reste du code source, ça reste un travail de programmation informatique, mais cette fois-ci, c'est dans des fichiers qui sont un petit peu plus simples de lecture, de compréhension. Il n'y a pas besoin de tous les outils de la chaîne de production pour réussir à modifier le scénario. Par contre, il faut quand même être formé. Donc, il faut quand même être capable de comprendre ce qui se demande, ce qui est, et de quelle façon c'est décrit. Donc, ça demande en fait un informaticien, un programmeur, et pas mal de temps de formation et de connaissance des outils. Finalement, il y a ce qu'on appelle une API. Bon, alors ça, c'est, je pense, encore le plus complexe du plus complexe, mais qui permet le plus de possibilités, hein. Plus on est en haut, plus c'est facile d'utilisation, mais moins souple. Et plus on est en bas, plus c'est souple, mais plus c'est compliqué d'utilisation. L'API, c'est directement aller appeler les fonctions du moteur de jeu dans le même langage que le moteur de jeu. Et là, il faut être maître de toute la chaîne de production et ce qu'on appelle recompiler pour pouvoir modifier le scénario et puis en faire autre chose. Recontextualiser le travail d'un autre est pratiquement impossible, sauf si l'auteur a investi beaucoup d'énergie à la base pour le rendre possible. C'est ce que j'expliquais sur l'éditeur dédié, mais généralement, c'est pas le cas parce que les personnes n'ont pas particulièrement ni l'envie ni l'intérêt. J'espère que je ne vous ai pas tous déjà complètement perdu. Je vais arriver sur du plus concret après. La solution proposée, c'est de considérer le scénario comme un contenu, pas comme une part inséparable du code source. Ça paraît logique à dire, évidemment, hein, c'est comme une image qu'on met dans un jeu. C'est comme une image qu'on met dans un jeu, vous m'entendez mieux, merci. C'est comme une image qu'on met dans un jeu, l'image, si on veut la modifier, on la modifie à l'extérieur du jeu, tout le monde sait le faire. Bah, le scénario, aujourd'hui, c'est pas le cas. Le scénario est intégré dans le jeu. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de l'extraire du code source. Transférer toutes les parties recontextualisables, on va voir ce que ça veut dire recontextualiser juste après, dans le scénario. C'est-à-dire que maintenant qu'on peut mettre ce fichier de côté, eh bien, l'idée, c'est de se dire qu'il va falloir s'en servir et puis dire qu'est-ce qui est recontextualisable. Dans un jeu de voiture, une partie du scénario comportemental, ça pourrait être de dire, si je tourne mon volant à droite, bah, la voiture elle tourne à droite. C'est l'histoire qui est racontée au joueur, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas recontextualiser. Ça n'a absolument aucun intérêt de se dire qu'on va faire autre chose. Ça fait vraiment partie inhérente du moteur et c'est effectivement quelque chose qui ressemble pas tellement à un scénario. Par contre, de dire que quand il va faire cette première course, s'il a terminé premier, on va lui débloquer les trois courses d'après. S'il a terminé second, on va que lui débloquer celle d'après. Et s'il a terminé troisième, bah, il doit recommencer. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut rentrer dans la catégorie scénario et qui est... facilement qu'un intérêt à être contextualisé où on va dire bah on change les valeurs ou tout simplement on fait carrément un autre comportement. Il faut, dans la solution qu'on va proposer, trouver un modèle logique que même les non-informaticiens peuvent appréhender. Le problème du code source, c'est qu'il faut être formé, il faut être informaticien pour pouvoir le manipuler. Et finalement, fournir un outil graphique qui permet la création et l'édition de ces choses-là. Je vous donne un petit exemple, on va arriver dans le concret. C'est un exemple très très simple où on peut imaginer qu'on se trouve dans un jeu d'aventure. Dans un jeu d'aventure, on a Tom qui vient parler à Janice et qui lui demande ce qu'elle est en train de faire. Janice lui répond qu'elle est en train de faire à manger. Et puis, le scénario qui est décrit au joueur va dire que si jamais on revient lui poser la question une deuxième fois, elle va répondre d'une autre façon. Elle va dire, et d'ailleurs on va pas lui poser la même question, elle va dire toujours en train de faire à manger, elle va répondre oui, oui. Et puis bah, le scénario dit que maintenant, à chaque fois qu'on va revenir lui poser la question, tant qu'elle n'a pas fini, elle va répondre la même chose. Donc ça, c'est un exemple de scénario. Juste pour essayer de recadrer, de remettre un petit peu sur les racines de la création de ce projet, ça vient donc du e-content plus. La recontextualisation, elle peut être très très vaste. Tout d'abord, on peut parler de traduction linguistique simplement. Avoir les fichiers textes externalisés, bah, c'est facile, ça permet de tout simplement les traduire. Toutefois, si jamais on veut changer de culture et dire que l'exemple s'y porte pas forcément trop bien, mais que y a pas de cuisine dans certaines cultures, par exemple, bon, bah, l'exemple est plus du tout bon. Donc on peut pas utiliser ça. Il faudra réutiliser carrément autre chose avec d'autres comportements. Et finalement, ça peut être dans un cadre beaucoup plus médical de dire tout simplement, on a des contenus pédagogiques qui existent dans un pays d'Europe, ils ont été scénarisés de façon à être appris à des étudiants de première année. Bon, bah là, on veut les mettre dans un autre pays d'Europe, avec une autre culture, et puis on veut les apprendre dans une autre matière, mais qui se base sur les mêmes assets, on va dire, pédagogiques, et à des étudiants ou carrément à des personnes déjà diplômées. C'est ça l'idée de recontextualisation et de réutilisation d'un scénario dans le cadre médical, et c'est la racine du projet. Maintenant, ça sert bien évidemment dans tout le reste de l'industrie du serious game. Donc voilà le modèle logique. Le modèle logique fait peut-être un petit peu peur, mais en fait, quand on apprend à le lire, il est très très facile. Quand on clique sur Janice et qu'on lui parle, il y a un si alors sinon. Bah, si on lui a déjà parlé, on va prendre la branche de droite, et si jamais on ne lui a pas déjà parlé, on va prendre la branche de gauche. Et lorsqu'on prend la branche de gauche, à un moment, on va écrire dans la petite variable first time qui est tout en haut à gauche, que ça y est, on lui a déjà parlé une première fois. Et donc, bah, en exécutant ce modèle de données à chaque fois qu'on parle à Janice, on va être capable de dire, bah voilà, la première fois il doit se passer ça, la deuxième fois il doit se passer ça. Ce type de modèle de données est ensuite traduit dans un fichier XML. Qui va représenter exactement la même chose que ce que vous avez vu graphiquement et va ensuite être lu par le moteur de jeu. Et à chaque fois qu'on va parler à Janice, le moteur de jeu va demander qu'est-ce qui est écrit dans le fichier XML. Il y a écrit que je dois réagir comme ça. Et donc du coup, on a réussi à extraire vraiment cette partie. Les bénéfices sont donc multiples. Facile de changer le comportement d'un jeu, ça permet de recontextualiser d'un type de jeu vers un autre. Sans s'écarter trop de la base, on est en tout cas capable de faire beaucoup, beaucoup de variantes. C'est également facile de réutiliser un scénario existant dans un autre moteur de jeu. Si on a développé quelque chose pour un moteur de jeu, étant donné que le scénario est écrit dans un fichier XML, il suffit juste que chaque moteur de jeu sache lire ce fichier XML, qui est quelque chose de très simple, pour pouvoir avoir une utilisation intermoteur. Et finalement, l'outil, alors non, pas finalement, en simplification majeure qui permet un temps d'intégration divisé par 20. Simplification majeure qui permet un temps d'intégration divisé par 20. Tout simplement, au jour d'aujourd'hui, quand on utilise du langage de script, un éditeur dédié ou encore une API, c'est lourd, c'est long. Alors l'API, c'est très lourd, très long. Le langage de script, c'est lourd, c'est long. L'éditeur dédié, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas souvent qu'on l'a. Le simple fait de parler de scénario en tant que tel et de l'utiliser grâce à un éditeur, je vais juste vous montrer l'éditeur de scénario cette fois-ci sur le slide d'après, eh ben, on a nous constaté des temps d'intégration divisés par 20, donc évidemment beaucoup de temps, beaucoup de gains d'argent également liés à ça. L'outil n'est lié à aucun moteur de jeu particulier. Bien évidemment, notre propre moteur de jeu pour Serious Game est capable de lire ces fichiers XML, donc c'est déjà branché. Maintenant, le branchement dans n'importe quelle autre chose existante est très pratique. Tout petit dernier cas sur la recontextualisation. Dans le consortium Educator, on est avec l'université Saint-Georges de Londres, qui travaille beaucoup sur les patients virtuels. Les patients virtuels, de quelle façon ça se comporte, bah, c'est un scénario également. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on est en train de se rapprocher pour pouvoir récupérer des comportements déjà existants chez eux, de scénarios, de patients virtuels, et les intégrer au sein d'un Serious Game. Donc, en gros, ça consiste à dire, on prend ce qui existe déjà, et puis on habille graphiquement, parce qu'en fait, ils ont déjà toute la base. Pour en savoir plus là-dessus et sur le jeu sérieux en général, ma société édite un blog qui s'appelle jeuxsérieux.fr. On s'apprête cette semaine ou la semaine prochaine à sortir un white paper, il est fini, dans lequel vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup plus vulgarisées cette fois-ci, beaucoup moins techniques sur les différenciations des différents types de serious game, mécanique d'apprentissage, comment faire un bon serious game, ce genre de choses-là. Et je vous invite à me poser des questions, notez mon adresse email et une première capture d'écran de ce qu'on est en train de faire qui fonctionne au jour d'aujourd'hui et qui permet d'écrire des scénarios comportementaux et narratifs. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Pour faire simple, oui, évidemment, le Serious Game est à but de transmission de savoir, d'apprentissage, mais aussi de communication, d'information, de sensibilisation, on va dire de pédagogie au sens très large du terme. Dans l'exemple que je vous présente, je vous montre quelque chose qui est né du milieu médical, pour le milieu médical, et qui trouve ensuite son utilisation à côté. Et en l'occurrence, la façon de penser de modélisation de ce scénario est vraiment quelque chose qui est issu de l'industrie du jeu vidéo. C'est comme ça qu'on pense dans le jeu vidéo, c'est comme ça qu'on fabrique les choses. Donc la possibilité de définir des scénarios qui vont ensuite, en amélioration continue, évoluer dans le temps, est tout à fait présente depuis la base du projet. C'est un outil de modélisation, c'est-à-dire qu'une fois que le scénario est écrit, on peut dire sur papier, pour dire bah c'est de cette façon qu'on va apprendre via le jeu, ou d'ailleurs via même pas le jeu, on peut extraire complètement la partie ludique de ça. On fait tourner des patients virtuels avec ça. Un patient virtuel, c'est pas du tout ludique. Et donc il y a une mécanique pédagogique qui est prouvée derrière cette chose-là. On peut la modéliser sous forme arborescente, sous forme graphique, et ensuite, si on veut, on peut ajouter des parties ludiques, des dialogues, des images, ce genre de choses-là. Et ça fonctionne également dans l'autre sens. Donc là, on est vraiment en train de parler d'un outil qui permet de simplement donner une représentation logique de ce qu'on a dans la tête. Ensuite, si ce qu'on a dans la tête n'est pas pertinent d'un point de vue pédagogique, la représentation ne le sera pas non plus. Si c'est pertinent, la représentation le sera. Et l'avantage, c'est que il va être beaucoup plus facile de travailler à plusieurs justement là-dessus, parce que généralement, quand on a quelque chose dans la tête et qu'on dit si c'est un bon moyen d'apprentissage, c'est difficile de le montrer, de l'illustrer aux autres. Grâce à cet outil-là, on va pouvoir effectivement dire voilà, c'est de cette façon-là que je pense faire apprendre aux gens. Et à partir de là, il peut y avoir discussion et consensus.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler de suivi de l'apprenant dans les Serious Games en général. Je vais illustrer ça par le cas de Play & Cure. Donc c'est un travail qui est fait dans l'équipe par une étudiante en thèse et une postdoc. Donc ce projet Play & Cure est financé dans le cadre des réponses à l'appel du secrétariat à l'économie numérique. Et donc voilà les partenaires, IBC, qui est une entreprise de Rennes, qui a un modèle 3D de simulation du corps humain. La faculté de médecine de Rennes, Yvon Lessard est là et tout à l'heure, il vous dira un petit mot en complément sur la partie 3D. Game Consulting, qui est donc une entreprise de jeux, un studio de game designer. Télécom Sud Paris, qui travaille en l'occurrence sur la 3D. Et puis donc l'équipe Moka, qui travaille sur les outils auteurs d'une part et d'autre part sur le suivi. Donc notre objectif dans ce projet, c'est de proposer à des étudiants de médecine de quatrième année de s'entraîner au diagnostic de patients. Et ça, ça vient en complément des exercices papier qui sont faits en TD à l'heure actuelle. La méthode, c'est donc évidemment un serious game qui est basé sur la navigation dans un patient virtuel 3D grâce à la plateforme qui est développée par IBC, dont Yvon Lessard vous dira un petit mot tout à l'heure. Donc le joueur incarne un médecin généraliste et le prototype qu'on développe est basé sur le fait que le patient présente des œdèmes. Donc les 7 classes de cas cliniques sont prévues. Je dis classe et non pas cas clinique individuel parce que j'espère qu'on pourra faire varier les valeurs numériques des différentes informations, des analyses, ce qui quand même, du point de vue de l'élève, d'étudiant, permet de faire varier, même si on est à l'intérieur d'une même classe, de faire varier les valeurs numériques. Et ça recouvre 10 types de pathologies différentes puisque un malade peut évidemment avoir plusieurs pathologies. La procédure préétabli qui est celle qui est faite en TD, donc classiquement l'interrogatoire les antécédents familiaux et les antécédents personnels, l'examen physique, le diagnostic différentiel, donc raisonnement hypothético-déductif, la confirmation du diagnostic et le traitement, donc c'est tout à fait classique. Et donc le principe du jeu, on en a parlé tout à l'heure également, donc la note attribuée au joueur dépend du fait qu'il a évité ou non les examens inutiles, du fait qu'il a minimisé le temps pour faire le diagnostic, qu'il a minimisé aussi le coût, c'est évidemment important, et puis qu'il a minimisé les conséquences possibles pour le patient, c'est-à-dire qu'il y a des examens qui sont intrusifs, et s'ils sont inutiles, évidemment, il ne faut pas les faire. J'espère que je ne dis pas de bêtises sur le plan de la médecine. Voilà le projet Pleine Cure. Donc la question de recherche, elle porte sur le suivi de l'apprenant. Donc ce suivi, il est très important. J'ai listé ici, je vais passer vite, mais j'ai listé ici les raisons pour lesquelles c'est important. Pour le joueur d'abord, pour lui donner du feedback et des conseils. Pour le tuteur, pour informer sur les connaissances acquises et les misconceptions de l'apprenant. Éventuellement pour le concepteur du jeu. Et même si on pense à des jeux adaptatifs, il y a tout un courant de recherche aussi sur cette question de faire des jeux qui soient adaptatifs. Et donc pour le jeu lui-même, évidemment, il faut avoir un retour sur ce que fait le joueur. La question, c'est que les notes telles que j'ai présentées dans le slide précédent et dont a parlé aussi Valérie Boudier, c'est pas, en soi, c'est pas informatif sur les connaissances et les misconceptions de l'apprenant. Il faut aller plus loin, il faut remonter des actions de jeu aux connaissances du domaine. Et donc, c'est la question qui nous préoccupe. Donc, comment diagnostiquer ces connaissances et ces misconceptions à travers les actions de jeu? Donc, évidemment, on peut imaginer plusieurs solution. Nous, la solution dont je vais vous parler, sur laquelle on travaille, donc, c'est le couplage entre un réseau de Petri et puis les ontologies. Alors, je vous dis un petit mot, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Donc, un réseau de Petri, c'est un graphe qui comporte des places qui permettent de caractériser une des caractéristiques du jeu. Donc, le jeu est caractérisé par un vecteur qui va être l'ensemble des places. Des jetons qui disent si on va pouvoir exécuter ou non les transitions. Et donc les transitions, ça modélise les actions soit du système, soit du joueur. Et donc c'est des modèles classiques, hein, les réseaux de Petri, qui ont l'avantage d'être graphiques. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un petit exemple. À la fois graphique, donc ça permet pour des non-informaticiens de voir, et même pour les informaticiens d'ailleurs, de voir ce qui se passe graphiquement, puisqu'on a aussi des exécuteurs. Et puis, c'est un modèle mathématique qui est bien fondé derrière. Et donc, on sait si une action est accessible ou pas, par exemple. Et c'est tout l'intérêt pour suivre ce que fait le joueur. Ça permet aussi de modéliser des actions séquentielles et surtout concurrentes. Justement, le joueur, l'intérêt dans un jeu, c'est que le joueur, il puisse faire plusieurs actions différentes. Et donc, le réseau Petri qui permet de modéliser ces actions en parallèle, concurrentes, est particulièrement approprié pour faire ça. Alors le réseau de Petri, il va permettre de dire si une action est justifiée ou pas, mais le réseau de Petri en lui-même, il ne porte pas de sémantique. Donc Une fois qu'on a eu l'idée des réseaux de Petri et qu'on a commencé à modéliser, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va aller chercher la sémantique? Comme Albert Claude l'a dit tout à l'heure, a posé la question, où est-ce qu'on a les connaissances du domaine? Et donc, nous, on a dit, on va coupler le réseau de Petri avec une ontologie. Donc, une ontologie, c'est la description d'une conceptualisation d'un domaine de connaissances. Donc, c'est un ensemble de concepts et de relations entre ces concepts. Et puis des axiomes éventuellement sur ces primitives, des contraintes. Et une fois qu'on a construit l'ontologie, cette ontologie, elle peut donner naissance à une base de connaissances dans laquelle on retrouve à la fois l'ontologie et des instanciations d'objets. Donc on va avoir des objets précis sur lesquels on va pouvoir faire des requêtes. Hein, les actions qui sont possibles, c'est faire des requêtes. Donc quand on va récupérer les données du réseau Petri, on va faire une requête pour aller chercher l'information dans l'ontologie pour transmettre soit à l'apprenant, soit au tuteur. Et puis, on peut aussi faire de la déduction, comme bien entendu, vous savez, dans les bases de connaissances, c'est fait pour faire des déductions, qu'on appelle ça système expert ou pas. Ce dont on s'est aperçu rapidement, pour construire donc ce réseau de Petri et l'ontologie, eh bien, c'est qu'il faut que l'équipe soit associée, et là on a différentes expériences, y compris avec KTM Advance, donc avec Valérie Boudier, que vous avez vu tout à l'heure. Il faut qu'on soit associé dès le début, ou le plus tôt possible, à la construction du modèle du domaine, sur les savoirs et les savoir-faire, et aussi sur les misconceptions. Le jeu, pour qu'il soit intéressant, il faut permettre à l'élève de se tromper. Il faut qu'il puisse faire des erreurs. Et donc, il ne faut pas seulement avoir un modèle de résolution des cas cliniques qui soit la résolution exacte, il faut aussi avoir toutes les connaissances embarquées sur les erreurs pour pouvoir avoir de feedback pour le joueur en particulier. Il faut aussi qu'on ait le modèle du jeu, évidemment, les règles du jeu, et qu'on puisse définir un modèle de traces dans le jeu pour récupérer ces traces-là. Donc, ces deux étapes-là sont essentielles pour arriver à notre modèle de suivi. Si on vient, on a des expériences qui ne sont pas toujours positives de ce point de vue-là, si on vient trop tard dans le modèle de suivi, c'est difficile, une fois que le code est écrit, c'est évidemment difficile de revenir en arrière pour comprendre exactement et avoir toutes les informations nécessaires. Donc, un petit exemple dans le cas de pleine cure. Donc, on a un patient qui présente une insuffisance veineuse bilatérale et on est à l'étape de confirmation. Donc les connaissances expertes, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais sinon je porte la responsabilité. L'angioscanner et l'angio-IRM sont deux types équivalents d'imagerie des vaisseaux, et ils peuvent être utilisés l'un ou l'autre, mais l'angioscanner a une image plus précise si on a besoin. Et donc il y a une connaissance, ça c'est dans l'ontologie qu'on va écrire ça, il y a une connaissance qui est implicite, et dans ce qui est dit ici évidemment, c'est que l'échographie rénale par exemple n'est pas utile pour confirmer l'étape de confirmation de l'insuffisance veineuse. Ça, c'est implicite. Et c'est le réseau de Petri, là, parce qu'il va interdire la transition, qui va expliciter cette connaissance, qui va nous permettre de la remonter. Donc, le système n'est pas du tout développé. Hein, c'est pas une démo que je fais. C'est une illustration que m'a préparé la postdoc pour vous montrer ce qui se passe. Donc, voilà le réseau de Petri. Hein. Voilà, les places, c'est les ronds, les jetons, c'est les points, et les transitions, c'est les rectangles. Donc, quand le rectangle est rouge, ça veut dire que la transition est acceptable. Donc, ici, elle va. Là, pour le moment, il n'y a pas de jetons, donc c'est pas accessible. Tant que au moment où cette transition-là s'exécute, vous voyez qu'il y a des jetons qui viennent. C'est bon, je suis dans les temps. Donc, voilà, ici, toutes les places ont des jetons. Toutes les places ont des jetons, donc le diagnostic de l'insuffisance veineuse peut se faire. Là, c'est l'action du joueur, et à ce moment-là, il arrive à ce que je vous ai dit, la phase de confirmation. Il a le choix entre l'angio-IRM et l'angio-scanner. Et donc, le réseau de Petri permet de voir ça. En revanche, l'échographie rénale, elle reste non valide. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de jetons dans la place, et donc, je sais que si l'étudiant fait comme action l'échographie rénale, ça n'a peut-être pas de sens, hein, mais s'il faisait ça, eh bien, le réseau de Petri permet de me dire que ce n'est pas une action qui était conforme à ce qu'on attendait dans la situation présente. Et puis, pour choisir entre les deux actions qui étaient valides, l'angio-IRM ou l'angio-scanner, eh bien, ici, j'ai mon ontologie, Donc je peux aller voir dans l'IRM, donc l'angio-IRM, voilà, ça confirme l'insuffisance veineuse, hein, ça confirme plusieurs choses, mais l'insuffisance veineuse, donc je suis satisfait, c'est une action qui est bonne, et d'autre part, je peux avoir une précision sur l'image. Donc là, c'est pas instancié, j'ai pas la précision, mais c'est fait dans la base de connaissances, ce sera instancié, on pourrait comparer après les précisions d'image. Donc, voilà, c'est fini, bon, c'est pas la peine. Donc après, on continue, on va voir l'autre, pareil, hein, l'angio-scanner, c'est aussi pour l'insuffisance veineuse, mais aussi pour l'insuffisance du cœur droit, etc. Donc là, j'ai toute la connaissance médicale à développer. Et donc, ça me permet de suivre ce que fait l'apprenant. Donc, en conclusion, deux petites leçons. Première leçon que je vous propose, concevoir des jeux vidéo dans lesquels l'objet même du jeu est le contenu sérieux. C'est bien ce dont a parlé Valérie, et c'est ça qui est évidemment difficile. Ça nécessite une ingénierie complexe qui associe étroitement l'expert du domaine, l'expert pédagogue, bon, des fois l'expert pédagogue est l'expert du domaine, mais pas toujours... Ce n'est pas toujours tout à fait le cas. Et le game designer. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Pas toujours successivement. Ils peuvent, par certains côtés, travailler en parallèle. Il y a d'autres moments où il faut vraiment qu'ils travaillent ensemble. Et ça, c'est nécessaire pour le suivi de l'apprenant et aussi de manière plus générale, ce dont vous a parlé Valérie, c'est-à-dire la question de l'intégration du jeu et de l'apprentissage. L'équilibre entre le jeu et l'apprentissage est délicat, évidemment, dans les serious games. C'est la partie qui est réellement délicate à faire. Et puis la deuxième leçon, plus spécifique sur le suivi de l'apprenant, du fait de cette intrication entre le jeu et l'apprentissage, le suivi du joueur apprenant dans un serious game est spécifique. On ne retrouve, moi j'ai travaillé beaucoup sur le suivi de l'apprenant, on retrouve ni ce qu'on fait classiquement dans les environnements informatiques d'apprentissage humain, dans les e-learning classiques, ni ce qui se passe dans les jeux vidéo, où il y a... souvent pas beaucoup de suivi du joueur, de toute manière, si ce n'est justement les points pour gagner, faire la compétition avec les autres. Et donc là, on est dans un cadre spécifique qui demande des recherches spécifiques. Je vous remercie. Oui. Alors, en tout cas, le réseau de Petri permet de faire en parallèle les différentes possibilités. Là, moi, j'ai trouvé ça dans les documents qui sont faits par l'équipe, hein, en géoscanner et en géo-IRM. Je ne veux pas discuter du fond du problème.
Non, non, mais c'est
dans,
juste
dans l'ontologie, un... Non, mais d'accord, mais dans l'ontologie, on pourrait dire... que dans telle situation, on a besoin d'une image précise, donc par exemple, c'est le scanner qui est mieux, ou dans une autre situation, c'est un troisième type d'examen qui va servir pour la confirmation, y compris avec des probabilités qui traduisent les situations ou les accords sur lesquels, dans tel cas, c'est celle-ci qui est meilleure, dans tel cas, c'est tel autre qui est meilleur. Et donc justement, le réseau de Petri ne permet pas de faire ça, il permet de dire, voilà l'ensemble des actions possibles, parce qu'elles sont activées, et c'est pour ça qu'on remonte après dans l'ontologie, et là, dans l'ontologie, on peut écrire toute la connaissance médicale souhaitée. Mais il faut qu'il y ait une coopération étroite pour que ce soit bien, bien fait.
Donc, les urgences médicales au cabinet dentaire, heureusement, on a la chance de ne pas en avoir beaucoup. Et d'après la dernière étude là, de 2010, elles sont effectivement très rares, puisqu'on a à peu près un appel au SAMU pour... 20 carrières, c'est-à-dire on va prendre 20 chirurgiens dentistes pendant toute sa carrière, ces 20 chirurgiens dentistes, il n'y en aura qu'un seul qui va appeler le SAMU. Même chose pour la réanimation cardio-pulmonaire. Et puis le malaise vasovagal, on va avoir à peu près 2,5 malaises par an et par praticien. C'est-à-dire que c'est négligeable. Et donc si c'est négligeable, c'est qu'on connaît pas, on n'a pas l'occasion de pratiquer en fait. Alors pour ça, on a la formation universitaire. Pendant tout le cursus de chirurgie dentaire, on a la possibilité de faire la formation. Et puis, on aura la formation post-universitaire. Alors, la formation post-universitaire, quand elle se fait avec Adriana, c'est certain que toute sa vie, on retiendra les urgences. Aucun problème. Le problème, c'est qu'Adriana, elle n'est pas là tout le temps. Donc, il va falloir apprendre. Plus là. Voilà. Donc il va falloir apprendre. Et puis alors là, j'ai fait une courbe d'apprentissage. Alors je l'ai inventée parce que je ne l'ai pas trouvée sur Internet. C'était juste avec des textes. Cette courbe d'apprentissage, donc, elle va avec le savoir qui est le théorique, le faire qui est le pratique. Et on va commencer à avoir cette courbe d'apprentissage qui est positive. Et puis, si on ne s'entraîne pas, eh ben, très vite, nos compétences vont diminuer. L'idéal, c'est de pouvoir avoir cette courbe d'apprentissage qui est une pente ascendante. Alors, à la fin, elle est très légèrement ascendante, mais elle continue toujours, toujours, parce qu'on va refaire et parfaire nos compétences. Alors, l'intérêt pédagogique du Serious Game, c'est évidemment un complément à la formation présentielle. On ne va pas du tout remplacer la formation présentielle qu'on a avec, parfois, Adriana Carambeu. On aura un apprentissage théorique dans le Serious Game que je vais proposer, une mise en situation avec les différents scénarios qu'on va construire. Là, on est en train de les construire avec un étudiant thésard et puis un médecin urgentiste réanimateur à Strasbourg, qui va nous permettre d'acquérir des automatismes, et à la fin, on va pouvoir évaluer l'étudiant ou le professionnel. Le gros avantage du Serious Game, c'est que l'apprenant est acteur de sa formation, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller à tel ou tel endroit et puis choisir lui-même ce qu'il voudra apprendre. Il va choisir ses temps de formation, il peut faire ça le soir, il peut faire ça dans la journée, il peut faire ça quand il a un petit moment pour lui. Ça va être très agréable. Vous allez voir, je vous montrerai après, c'est un univers qui est plutôt pas mal. Il a le droit à l'erreur, mais ça, les interlocuteurs, les orateurs précédents nous l'ont dit. Il pourra donc recommencer autant de fois qu'il veut. Dans le Serious Game que l'on propose, eh bien, l'environnement va pouvoir être modifié en fonction du parcours de l'apprenant. Et puis, on a fait tout ça dans un milieu convivial, modélisé à l'image réelle. Et puis, à la fin, j'ai laissé un espace parce que j'ai mis que l'apprenant est stimulé par les témoins de l'action. Parce que comme on fait ça dans un univers virtuel 3D, en réseau, eh bien, toutes les personnes connectées peuvent voir celui qui va faire son test, par exemple. Donc, il va être stimulé. C'est comme quand on fait ses formations de 3 jours par l'AFGSU, par exemple. Eh bien, on fait sa réanimation, on fait son massage cardiaque. Eh bien, tous les autres qui sont là, ben, peuvent voir comment ça se passe. Donc on est un peu stimulé. Alors tout ça, c'est en cours. Hein, c'est un projet mais qui est déjà bien avancé, mais qui est tout en cours. Donc on va commencer par faire un diaporama d'introduction en expliquant le jeu, le parcours pédagogique, les fonctionnalités et en particulier donc les interactions avec les avatars, avec les objets, savoir comment on va leur parler, parce qu'on a l'occasion de pouvoir parler avec la voix, comme avec Skype. On peut leur parler par écrit, comme avec Facebook ou le chat, MSN, etc. On va pouvoir interagir avec les objets, avec les avatars. Donc les objets, on va cliquer sur un objet, hop, ça va se transformer un peu comme on veut. Donc le déroulement du jeu. En deuxième partie, on a fait un questionnaire sur les urgences. L'avatar, parce que donc le personnage que vous voyez, c'est mon avatar, hein, arrive. Et puis, on va lui poser la première question, c'est un questionnaire global sur les urgences. Et on va essayer de l'évaluer à ce moment-là. On ne lui aura donné aucune formation auparavant. On verra quels sont ses acquis. Et avec ce questionnaire, on va conserver tout ça sur une base de données qu'on pourra réutiliser, que l'apprenant pourra vérifier après pour voir quels sont ses progrès. Et dès le départ, on le met au pied du mur, questionnaire, interro. Après, on va diviser toutes les urgences qu'on a. Alors, pour l'instant, on en a une dizaine. On va leur faire un petit cours, un diaporama pour chacune de ces formations, avec des formations théoriques illustrées. Donc, comme ça, donc, il va passer son diaporama tout seul, il va pouvoir apprendre. Une fois qu'il a passé ce diaporama, top, on lui repose des questions sur ce diaporama en particulier. Donc on va rentrer, on va être précis ou pas, on est en train de faire ce questionnaire. S'il valide, alors là on se posait des questions, vous pourrez m'en parler après. Est-ce qu'on valide quand il a 90% de réponses justes, 95%, 75%, je ne sais pas, est-ce que pour une urgence médicale, est-ce qu'on peut estimer que s'il répond à 95% des réponses, est-ce que c'est validé ou pas? Donc ça, je voudrais bien un peu un retour de votre part. Et puis si c'est pas validé, on s'est dit qu'il n'avait pas le droit de recommencer tout de suite parce que c'est trop facile de pouvoir corriger. Et on lui laisse 24 heures. 24 heures après, il peut retourner et refaire le test. Mais il pourra évidemment sur un autre diaporama pour faire un autre test, évidemment. Mais pour ce test précis, il ne pourra pas. Et puis après, ben, on fait des animations, comme vous le voyez ici. Alors là, à gauche, vous verrez un massage cardiaque, et à droite, un cabinet que j'ai filmé là il y a quelques jours. Alors tout ça s'est fait avec un thésard, comme je vous l'ai dit, et un médecin urgentiste, enfin un médecin anesthésiste réanimateur. Évidemment, on est en train de construire des arbres décisionnels, et en fonction de ça, eh bien, l'avatar va agir de telle ou telle façon. Par exemple, on a un téléphone, si l'avatar clique sur les bonnes touches, le 15 ou le 112, eh ben, ça sera validé dans le scénario, on sait que le SAMU va pouvoir venir, et on prévient l'avatar que le SAMU va venir et qu'il va être aidé. Mais pour ça, il faut qu'il l'ait fait. Voilà, par exemple, là, on a modélisé une mise en PLS sur un fauteuil. Vous allez voir l'animation. Et tout ça se fait de façon assez facile, hein. Alors pour là, vous avez vu des belles images, c'est magnifique. Vous dites, oh là, ça doit être super compliqué et super cher. Eh bien, pas du tout. Parce que tout ça, c'est open source. Vous pouvez le faire vous-même, soit sur votre ordinateur, soit sur un serveur d'une des facultés, enfin, comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé le serveur de Second Life. Alors, vous penserez ce que vous voulez, mais moi, je n'y vais que pour travailler. Alors, c'est le Second Life. Second Life est open source et multiplateforme, donc on peut l'utiliser avec un Mac, Windows, Linux. Alors, il a des clients, c'est un logiciel que vous allez télécharger sur votre ordinateur. Il y en a plusieurs. Il y a le viewer officiel qui est le viewer officiel de Second Life, mais après, il y aura Snowglobe, Phoenix, Kirsten, etc. En tout cas, je vous ai mis en adresse Internet, là, avec un petit URL pour vous éviter d'avoir une adresse trop longue, la liste de tous les viewers clients qui sont disponibles, avec tous les avantages et les inconvénients. Mais sachez que c'est quelque chose d'open source et que vous pouvez créer ces mondes virtuels là où vous voulez. Et puis faire venir toutes les facultés, enfin tous les étudiants comme ils veulent. Moi, je n'ai pas choisi ça comme ça, parce que je voulais regrouper que les chirurgiens dentistes, donc il a fallu avoir des inscriptions pour éviter d'avoir des problèmes avec les conseils de l'ordre. Alors, l'île sur laquelle je travaille s'appelle Ivoire, et quand on regarde la carte du monde, on voit donc San Francisco, et mis à l'échelle, on voit tout le monde de Linden Lab, donc toutes les petites îles qui sont ici, voilà, correspondent à la surface qu'utilise Linden Lab pour mettre ces îles. Donc moi, j'utilise un site internet qui s'appelle Dental Life, sur lequel on fait son inscription. On inscrit son avatar. Ça nous permet d'éviter de passer par le site officiel de Second Life pour faire son avatar et de se retrouver sur une île entourée de Kidam. Là, on arrive directement sur l'île là où on vient travailler. Et puis, cette île, donc là, vous la voyez, elle se ressemble à une molaire. Donc, le fait qu'il y ait un contrôle des entrées, ça nous permettra de n'avoir que des chirurgiens dentistes ou que des professionnels du monde dentaire. Mais on peut faire ça, on peut faire ça pour la pharmacie, on peut faire ça pour les médecins, on peut faire ça pour tout le monde. Donc, l'inscription, va permettre l'interaction avec les objets. Comme je vous l'ai dit avant, la construction, on va trouver un espace sur l'île pour que tout le monde puisse construire quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que moi qui suis administrateur du site qui vais construire des choses, mais comme j'ai laissé une petite plage là où on peut construire, et ben n'importe qui peut venir et puis commencer à construire et à apprendre, à programmer, etc. On va pouvoir évidemment parler par message écrit, par message écrit en local. C'est-à-dire qu'à 20 mètres, tout le monde pourra entendre, tout le monde peut se parler, ou alors en message instantané à quelqu'un, si on veut rester un petit peu discret. On peut faire la même chose avec la voix. C'est-à-dire que je me retrouve au milieu de la scène et puis je parle et puis tout le monde m'entend. Et si je veux discuter avec quelqu'un au bout de la salle parce que je vois qu'il n'écoute pas, eh ben je vais pouvoir lui envoyer un petit message en disant « maintenant tu écoutes ». Parce qu'on a créé aussi un amphithéâtre où on peut suivre des conférences en direct. Donc j'ai dit que l'utilisation était gratuite, que la programmation, l'animation, l'importation d'objets 3D peuvent se faire gratuitement par tous les visiteurs. Et donc on a accès à des cours, conférences en direct aussi. Voilà. Pour ce qui est du retour d'usage, eh bien on va se débrouiller pour avoir le nombre de visiteurs, l'enregistrement des questionnaires des utilisateurs, la liste des utilisateurs ayant validé les tests, et puis on va pouvoir améliorer le contenu et les fonctionnalités suite aux remarques des utilisateurs. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention.
Votre projet, le projet que vous avez déposé.
Donc, à mon avis, j'ai mis 3 mois quand j'ai répondu, mais c'était pour m'éviter de mettre 6 mois et d'en faire 8. Donc je pense qu'en 4 ou 5 mois, ça peut être fait facilement. Alors pour l'instant, moi, j'en ai pas les compétences. Donc il me faudra du monde, des sous et des choses comme ça. Mais pour ce qui est des avatars, c'est chaque fois quelqu'un qui se connecte sur l'ordinateur qui va, vous m'avez vu moi, qui va se représenter. Après, la personne que vous voyez sur le fauteuil, ça c'est juste une modélisation, c'est un sculpti. Donc là, on peut le bouger dans tous les sens qu'on veut. Mais un autre avatar qui se connecte, on peut lui donner un script d'animation, et puis il va se retrouver par terre, par exemple. C'est ce que j'ai déjà fait. Il se retrouve par terre, et puis j'arrive avec mon avatar, hop, et puis je lui fais son massage cardiaque, par exemple. C'est ce que j'ai commencé à faire, mais j'ai pas les compétences complètes parce que je suis un simple dentiste.
C'est un projet qui est ouvert au maximum de gens qui sont intéressés d'y participer. Et donc je vais vous expliquer un petit peu l'idée générale. L'idée générale, c'est qu'avant qu'un médecin soit très compétent pour ses patients, il va y avoir toute une période dans laquelle il va falloir qu'il apprenne ou qu'il réapprenne, parce que la connaissance change très vite. Et donc il faut parfois revenir à l'école pour réapprendre des nouvelles techniques, réapprendre des nouvelles maladies. On a vu tout à l'heure que, effectivement, le scanner ou l'angio-IRM s'est un peu dépassé. Il faut peut-être faire du Doppler pour le diagnostic d'insuffisance veineuse. Il faut apprendre à le faire. Et malheureusement, cette zone-là d'entraînement sur les patients, c'est une zone qui n'est pas forcément très bonne pour les patients. D'abord, c'est pas très éthique. Et puis deuxièmement, ça coûte cher. Et donc nous, on pense, il n'y a pas que nous, tous les enseignants dans le domaine médical pensent bien qu'ici, il y a une place pour toutes les outils utilisant la simulation, qu'elle soit la simulation sur des simulateurs de chirurgie, sur des simulateurs de gestes techniques, ou qu'elle soit la simulation sur du serious game. Donc, en gros, que dans notre formation actuelle, entre l'acquisition de connaissances au cours théorique et puis l'acquisition d'une expérience dans les rotations au stage hospitalier, il y a une place pour, en complément et articulé avec l'enseignement classique, naturellement, pas en remplacement, en tout cas pas pour l'instant, pour l'utilisation de ces techniques, soit pour apprendre des gestes et donc des entraînements spécifiques avec des mannequins monotâches, soit avec des mannequins haute fidélité, qui sont des simulateurs de médecine ou de chirurgie, soit au milieu des techniques comme les serious games, qui permettent de faire en présentiel ou en distanciel de la formation, de l'évaluation, de la recherche. Alors j'espère qu'il y aura du son, j'ai une petite vidéo. Entendez ?
Process associated with high levels of risk of morbidity and mortality. Healthcare professionals are facing daily issues. Ensuring high levels of security in a field of evolving knowledge and continuous innovation while providing high quality of care. In addition to acquiring up-to-date clinical skills to meet society's growing ethical... Most of these issues can be addressed through modern and interactive medical teaching and training. Illumin is a global educational experience aimed at developing numeric and simulation-based educational programs for healthcare professionals. It allows moving beyond medical knowledge to deliver higher levels of education and training. In addition to ensuring that healthcare is performed with expert skills, optimal teamwork, and management to reduce accidents and costs.
c'est très impressionnant de voir, et en particulier dans la médecine, où évidemment, l'idée qu'il y a un cobaye, en quelque sorte, enfin, l'idée qu'on se forme sur le premier malade est quelque chose d'un peu inquiétant, quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est impressionnant de voir à quel point le numérique peut permettre de rendre une situation de manière très très réelle, donc d'apprendre, d'apprendre dans les meilleures conditions, et avec tous les paramètres de la vie réelle, notamment avec... avec le travail en collectif. Moi, c'est ce qui m'a frappé plutôt dans les ateliers que j'ai vus, c'est qu'en fait, ce sont des ateliers qui sont organisés en collectif, avec un professeur qui débriefe après, mais avec plusieurs étudiants qui travaillent ensemble et donc qui apprennent autant la dynamique d'une équipe médicale que simplement le diagnostic ou l'acte médical lui-même.
Cet équipement mi-lourd, c'est typiquement ce qu'on voit ici, c'est-à-dire un équipement qui coûte, qui n'est pas une très grande infrastructure de recherche, qui est très important pour faire un saut pédagogique à la formation ou un saut technologique à la recherche.
Established in the very center of Paris, this high technology integrated platform provides evidence-based sessions for initial, specialized, and continuous medical training on technical and non-technical skills, directly applicable on clinical practice. Addressing the growing demand of every healthcare professional, Illumin delivers didactic training without any risk for patients or learners. Taking advantage of both groundbreaking research programs and innovative curricula, key faculty members of Illumin develop new medical training methods to transform competencies into performance and experience into expertise. Illumin, a key leader for a better and safer healthcare.
Petite présentation pour introduire le concept. Excusez-moi, elle est en anglais, mais vous savez qu'aujourd'hui, pour chercher des fonds, il faut s'adresser à beaucoup de partenaires et que beaucoup d'entre eux considèrent que le petit marché français est un peu trop petit et qu'il faut nécessairement s'exprimer et parler en anglais en plus du français naturellement. Alors, dans cette plateforme, il y a, vous avez vu, des mannequins et puis il y a aussi le développement de serious games. Alors, pour l'instant, nous, on n'est pas aussi doués et aussi inventifs que notre petit dentiste tout simple de tout à l'heure. Et donc, nous, on a été... parce qu'en fait, il a dit ça avec beaucoup d'humilité et de modestie. Ça demande énormément de travail, surtout si, en plus, on rentre dans le détail de scénarios très compliqués où l'avatar ne se contente pas de dire « j'ai mal », mais où il va avoir un comportement proche d'un patient et où il va éventuellement répondre soit de manière adaptée, physiologique, soit de manière inadaptée parce qu'il est malade. Et donc, nous, on a été contactés par, à ma connaissance, le premier fabricant de serious game médical qui a réellement développé aujourd'hui et qui a des solutions qui existent déjà et qui fonctionnent aux États-Unis dans 3 grandes universités. C'est la société Breakaway, qui, grâce à des financements de l'armée américaine principalement et de Texas University, a développé un certain nombre d'algorithmes, un moteur d'abord pour simuler des situations cliniques, puis ensuite un environnement, des avatars. Et je vais vous montrer un petit peu comment on peut s'en servir et comment on a commencé à le tester, nous, à l'université.
On va s'intéresser pour commencer à l'actualité scientifique. Alors, il vous est peut-être arrivé, ou vous avez entendu des histoires de ce genre, on arrive aux urgences et on voit un jeune interne et on se dit, mais est-ce qu'il est suffisamment qualifié? Est-ce que je peux me remettre entre ses mains? Alors, justement, aujourd'hui, il existe des logiciels de simulation destinés à former ces jeunes gens-là. Vous allez avoir un exemple et c'est assez réconfortant. Laurence Beauvillard.
Nous sommes en présence d'un jeune homme de 24 ans qui a un traumatisme automobile un peu sévère et qui a été pris en charge par l'équipe médicale sur le bord de la route et qui va transporter le patient aux urgences où vous êtes là. Et vous êtes le médecin. Et tout ça, pendant ce temps-là, le temps tourne. Vous voyez ça fait déjà 40 secondes que le patient est arrivé dans la salle d'urgence et il va falloir se mettre en route. Pourquoi? Parce que, regarde en bas, si tu veux afficher les paramètres vitaux, toi, ce patient, tu vois bien, il bat déjà 140 par minute, donc il a mal. Et probablement, il saigne. Vous imaginez bien, traumatisme dans cette zone-là, sur le thorax, etc. C'est évocateur. Puis il a une petite tension, hein, il a 8 de tension. Il est jeune, pour l'instant il compense, mais ça pourrait mal se passer. Donc maintenant à vous de
parler. Ces étudiants en médecine n'ont jamais été confrontés à une telle situation. Grâce à Pulse, un logiciel américain, ils vont s'initier virtuellement.
Quelle est ton inquiétude?
Qu'il ait un pneumothorax.
Un pneumothorax, t'as raison. Donc tu l'auscules, donc tu prends ton stéthoscope virtuel et tu vas le mettre sur le thorax de l'individu. Et donc normalement on va entendre ou non des sons. Donc moi, ce que je pense qui serait important, peut-être, c'est que tu penses à mettre une voie veineuse. Parce que regarde, le malade a 7 de tension. Donc là, il serait, à mon avis, utile que tu demandes à notre infirmière ou à notre infirmier de lui mettre rapidement une voie veineuse et de le remplir. Les globules rouges, tu les as pas tout de suite, mais fais vite quand même parce que ça va pas bien du tout là. Tu vois, là, il se dégrade à grande vitesse. On entend d'ailleurs le son.
Ça permet de se mettre dans des situations sans risque pour les patients, sans risque pour les futurs médecins, et de tester soit des situations très fréquentes pour lesquelles il faut être très réactif et puis appliquer des procédures dans un bon ordre et pour la qualité et la sécurité des soins, soit des situations très rares qui ne vous arrivent jamais ou qui n'ont peu de chances de vous arriver, mais le jour où ça vous arrivera, vous en rappellerez et vous pourrez appliquer ce que vous avez appris sur ce scénario, cette simulation virtuelle.
Tu pourrais lui donner un petit peu d'oxygène, non? Regarde la saturation qui baisse, 86% de saturation, il faudrait peut-être faire quelque chose. Je propose de lui mettre de l'oxygène rapidement. Donc tu attaches un masque à oxygène et on voit que le masque à oxygène est arrivé. Ensuite, je te propose peut-être de... Eh ben voilà. Donc là, on a eu un exemple. En 3 minutes, on n'a pas fait ce qui était attendu de notre part.
Ça nous entraîne à vraiment être systématique, à faire toujours la même chose, parce que si on oublie une étape, le logiciel il dit que notre patient il est mort. Du coup, franchement, quand on recommence la fois d'après, on pense bien à faire chaque étape. Du coup, ça nous oblige à être systématique, à rien oublier.
Ce logiciel permet également d'aborder d'autres spécialités médicales comme la cardiologie, la gynécologie, la pédiatrie, les techniques de soins dentaires et bientôt en version française.
Le temps global pour la conception de Pulse a demandé à peu près 3 ans et il faut le séparer en 2 parties, le travail en amont avec les médecins, les scientifiques, les universités et puis bien sûr l'autre partie sur le développement technique, notamment en 3D.
D'examiner le scan.
Tous ces logiciels sont issus des techniques de simulation développées à l'origine par l'aéronautique et par le jeu vidéo. Aujourd'hui...
Alors, bon, je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe avec Pulse. Et voilà un petit peu l'environnement de Pulse. On est plutôt dans la création de scénarios, dans les algorithmes de décision, dans le tutoriel et dans la grille de correction. Parce qu'on est moins doué dans le graphisme que notre très doué collègue. Et donc, on a laissé des graphistes faire ça, on a laissé des ingénieurs faire ça. Et donc, nous, on se tient à écrire des scénarios dans lesquels les étudiants vont pouvoir, pour l'instant, utiliser usage unique user, mais demain en multi-user, ou éventuellement l'infirmière ou un autre collègue pourra jouer son rôle dans le jeu, et de pouvoir ici donc faire ce que vous voyez dans la situation actuelle, c'est-à-dire d'un patient qui est extrêmement performant, qui a les paramètres vitaux qu'on ausculte, qu'on déplace, dans lequel on peut évaluer la conscience, qui parle. Pour l'instant, là, celui que vous avez sous les yeux, il est intubé, il est ventilé, mais sinon, il parle. Il a le réflexe photomoteur. On peut examiner les oreilles, on peut examiner tous les orifices. On peut le déplacer sur le côté. On peut lui faire des examens complémentaires, ici, de l'échographie. On peut avoir accès à des examens complémentaires qui ont été demandés et qui ne vont pas être obtenus comme ça, dans un coup de baguette magique, mais en respectant le temps habituel pour les obtenir. On demande un scanner, on l'a pas tout de suite. On aura besoin d'attendre un petit peu qu'il soit réalisé. Vous voyez ici, par exemple, on fait le réflexe photomoteur. Et puis derrière, donc, des algorithmes qui nous permettent effectivement d'intégrer ce que les étudiants savent, ce que les étudiants ne savent pas, de bien intégrer la misconception dont on a parlé aussi tout à l'heure, et de leur donner ensuite un retour sur leurs notes avec des éléments de jugement en relation avec l'ordre logique, l'ordre dans lequel ils ont réalisé les bonnes ou les mauvaises choses, et puis de leur donner un tutoriel et une explication à chaque étape pour qu'ils comprennent bien pourquoi ce qu'ils ont fait était bien et pourquoi ce qu'ils ont fait éventuellement était mal. Donc voyez ici un petit exemple de ce que permet aujourd'hui Pulse. Donc Pulse est en américain, et donc nous sommes en train de développer des scénarios en français. Et nous, à cette occasion, donc nous remercions l'UMVS avec lequel effectivement nous avons, comme le collègue, envoyé un projet cette année qui a été retenu, qui est celui de créer pour l'université numérique francophone un cas clinique d'infarctus du myocarde, donc qui sera pour tout le monde et qui sera à disposition sur Internet. Et nous sommes un petit peu plus réalistes et nous pensons qu'il faudra au mieux 6 mois, mais plus raisonnablement 12 mois pour qu'on puisse avoir un scénario qui tient la route et dans lequel on intègre dans l'infarctus du myocarde, beaucoup de solutions qui vont de l'infarctus du myocarde en territoire inférieur standard jusqu'à l'infarctus du myocarde étendu antérieur avec l'insuffisance cardiaque, le choc cardiogénique qu'on va thromboliser, chez qui on va mettre un ballon de contre-pulsion ou éventuellement une technique d'assistance. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail de réalisation, d'écriture, de scénario, etc. Et je crois que l'idée, c'est la création d'une communauté, comme vous l'appelez, c'est-à-dire une communauté de gens qui écrivent des scénarios et qui comprennent tout l'intérêt qu'il y a à mettre en commun de l'intelligence et puis de se servir des moteurs plus ou moins puissants et du graphisme fait par des gens dont c'est le métier et qui, pour notre part, n'est pas le cœur de notre métier. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je peux faire un petit commentaire. Effectivement, ça pose le problème du modèle économique de ces serious games et en particulier dans le monde éducatif. Bon, comme vous avez compris, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail et le travail, ça, c'est de l'argent, clairement. C'est du temps, c'est de l'argent. Donc, il y a différentes pistes qui sont étudiées. Il y a naturellement une qui est assez simple et que vous avez tout de suite compris, c'est celle de l'intégration de partenaires industriels et de fabricants de médicaments, avec le danger très net et très clair qu'on fasse de l'achat de formation, l'achat de prescription par des gens qui ne sont pas des universitaires et qui puissent être extrêmement dangereux et dans lequel on sera très, très, très critique et on rentrera pas dans cette voie-là. Néanmoins, il y a la possibilité, par exemple, vous avez vu qu'on était capable de régler le respirateur dans ce cas clinique, que le respirateur, eh bien, il puisse être, et puis que ça tourne, de telle ou telle marque et que pour qu'on puisse régler le respirateur de tel ou tel fabricant, il puisse y avoir une rotation et que sur le cas d'infarctus, ça soit un respirateur de chez GE et chez un autre, de chez Siemens et chez un autre chez Philips. Donc il y a des modèles économiques qui sont étudiés. Il y a aussi tout l'intérêt de profiter du modèle grand public, l'éducation thérapeutique, où il y a un beaucoup, beaucoup plus gros marché qui n'est plus une niche. Et ensuite, de se servir des cas cliniques développés pour le grand public pour ensuite l'utiliser pour l'enseignement médical. Donc, mais il y a une grosse réflexion aujourd'hui autour effectivement de la façon de financer ces jeux éducatifs.